Le journal, c'est avec vous Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marlène, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Il est celui qui affrontera Anne Hidalgo pour les municipales de l'an prochain à Paris. Benjamin Griveaux, l'ancien porte-parole du gouvernement, a été préféré à Cédric Villani et a eu grand son. Bon vin, homard et polémique. François de Rugy, accusé d'avoir organisé aux frais de l'Assemblée nationale des dîners plus mondains que politiques. 121 femmes ont été tuées l'an dernier par leur conjoint ou leur ex-compagnon, chiffre officiel. Disputes ou refus d'une séparation sont presque toujours à l'origine de ces drames. Boire une canette de soda par jour, c'est déjà trop. La maladie du soda touche environ un Français sur cinq, avec des conséquences irréversibles pour le foie. Quel est l'impact de l'immigration sur la natalité française? Moins important que ce que l'on pourrait imaginer d'après les chiffres officiels qui viennent d'être communiqués. Mais de quoi souffre Angela Merkel? Pour la troisième fois, la chancelière a été victime de violents tremblements. Peter Sagan, vainqueur de la cinquième étape du Tour de France, à Colmar ce soir, à la veille de la première arrivée au sommet, à la planche des belles filles, à la Philippe, toujours en jaune. Des nuages dans notre ciel demain sur les deux tiers nord, ce sera souvent plus blanc que bleu et même gris sur les régions du nord-est avec quelques averses. Beaucoup plus dégagé sur le tiers sud, même si des averses ne sont pas à exclure sur les Alpes-Maritimes et sur la Corse en soirée. Ne manquez pas les prévisions d'Elena Morna à la fin de ce journal. Notez qu'un violent incendie s'est déclenché en fin d'après-midi dans les Bouches-du-Rhône. Entre Vitrolles et Rognac, 6 départs de feu, a priori dus à des étincelles provoquées par le passage d'un train. Une centaine de pompiers, une soixantaine d'engins sont intervenus, 7 moyens aériens. L'A7 a été coupée, tout comme la voie SNCF, mais la situation désormais est pratiquement maîtrisée.
Europe 1.
Et on connaît donc le nom du candidat La République En Marche qui affrontera Anne Hidalgo l'an prochain au municipal à Paris. Ils étaient trois, Benjamin Griveaux, le mathématicien Cédric Villani et Hugues Ranson. La commission d'investiture a finalement tranché en faveur de l'ancien porte-parole du gouvernement. Virginie Riva, vous avez suivi ça de très près pour Europe 1. Virginie, ça y est, donc le choix est fait, mais visiblement les deux autres candidats sont pas ce soir dans une dynamique de rassemblement.
Non, Benjamin Griveaux est venu faire sa déclaration seul. Hugues Ranson, présent un peu plus tôt au siège du parti, n'était pas à ses côtés. Quant à Cédric Villani, lui, ne s'est même pas rendu au siège d'En Marche ce soir. Il a communiqué ses regrets avant même l'annonce officielle de la décision de la commission. Maintenant, le suspense sur son ralliement à Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux qui, de son côté, a tout de suite appelé au rassemblement, saluant les qualités humaines de Cédric Villani.
Quand vous avez mené un combat avec ardeur, avec cœur, avec fougue, avec détermination, comme l'a fait Cédric ces dernières semaines, il est normal d'avoir un temps de déception. Je le respecte absolument, mais je l'ai dit, c'est un homme de cœur, c'est un homme d'engagement. Et je sais que nous saurons trouver, dans les heures et dans les jours qui viennent, les moyens de nous rassembler.
De leur côté, les deux présidents de la commission d'investiture, eux, ont rappelé les règles. Et l'engagement des candidats à accepter la décision et à se ranger derrière le vainqueur. Le président de la commission, Alain Richard, n'a pas hésité à menacer d'exclusion Cédric Villani, si tel n'était pas le cas.
Virginie Riva au siège de La République En Marche à Paris. À Lyon, le rival de Gérard Collomb, David Kimmelfeld, refuse la proposition du maire sortant de partager le prochain mandat à la tête de la métropole. Proposition qu'il juge irrespectueuse et illisible. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, se défend, mis en cause par Mediapart pour des dîners fastueux qu'il aurait organisés à l'époque où il était président de l'Assemblée nationale. Grand vin, homard, il n'en fallait pas davantage pour créer la polémique. En tout cas, l'intéressé assume, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, Isabelle, François de Rugy parle de dîners informels, des dîners de représentation où il rencontrait notamment des personnalités issues de la société civile, des patrons, des intellectuels, des artistes ou encore des journalistes. Selon lui, c'était une manière de garder le contact avec la société. En gros, il se défend d'avoir organisé des dîners people, des dîners entre amis. Il plaide des dîners de travail, une dizaine en quelques mois. Reste que l'image est désastreuse. Les photos exhumées par Mediapart, du homard, du champagne, des grands crus, ça colle assez peu avec l'image de sobriété prônée par la Macronie. Il y a notamment des photos d'une soirée de Saint-Valentin où le ministre apparaît à une table parsemée de pétales de rose. Là aussi, il assume.
Je trouve ça quand même assez anecdotique. Ce qui m'est reproché, c'est qu'il y avait des pétales de rose sur une nappe blanche. Les services de l'Assemblée nationale qui avaient fait cela pour me faire plaisir, et je les en remercie. C'était en effet quelque chose qui était inopportun. Un dîner à deux, voilà, dans le salon du rez-de-chaussée de l'Assemblée, au lieu d'être dans la salle à manger du premier étage. Voilà, c'est le seul changement. Ça n'a pas coûté un euro à l'Assemblée nationale, je tiens à le préciser.
À l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole porte-parole du gouvernement a affirmé que François de Rugy conservait la confiance du président et du Premier ministre. Officiellement, il n'est pas en difficulté. Matignon assure qu'aucune règle n'a été enfreinte. Mais dans les couloirs de l'Assemblée, certains dénoncent des dîners plus mondains que politiques. S'il avait voulu des dîners moins somptueux, il aurait tout simplement pu le dire à ses services, glisse un proche du ministre.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Les voleurs qui ont braqué un fourgon de transport de fonds ce matin sur l'A43 dans le Rhône au niveau de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, ces voleurs sont toujours dans la nature. Ils sont repartis bredouilles puisque le fourgon en question était vide. Ils étaient visiblement mal renseignés. Trois convoyeurs ont été légèrement blessés. Le bébé d'un an, oublié pendant 2 heures dimanche dans la voiture de ses parents près de Pithiviers dans le Loiret, est décédé hier soir à l'hôpital. Placé en garde à vue, ses parents avaient été libérés pour leur permettre de se rendre au chevet de l'enfant. On parle souvent des violences conjugales. On a aujourd'hui les chiffres officiels pour l'an dernier. 121 femmes ont été tuées en 2018 par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Des comptes dramatiques dressés par le ministère de l'Intérieur en attendant un Grenelle des violences conjugales qui est annoncé pour la rentrée. Des chiffres mais aussi le profil des agresseurs, Pauline Jacquot.
Oui, un homme très souvent marié, sans activité professionnelle, entre 30 et 49 ans. L'agression a presque toujours lieu au domicile du couple, à l'aide d'une arme blanche ou d'une arme à feu. L'auteur n'a généralement pas prémédité son geste et les deux principaux mobiles sont la dispute et le refus d'une séparation. Dans plus d'un cas sur deux, l'agresseur a consommé de l'alcool, des stupéfiants ou un psychotrope. Et quand il y a homicide, le climat de violence au sein du couple est déjà bien installé. Plus d'une victime sur trois a déjà subi des violences de la part de son conjoint ou ex-conjoint, des menaces, des injures, des violences physiques ou sexuelles. Le ministère de l'Intérieur met également l'accent sur les victimes collatérales de ces violences. 21 enfants ont été tués l'an dernier sur fond de conflit conjugal.
Les précisions de Pauline Jacquot pour Europe 1. Et depuis le début de cette année 2019, plus de 75 féminicides ont déjà été recensés. Vous vous souvenez sans doute de cette femme blessée à Nice lors d'une manifestation des Gilets jaunes, Geneviève Leguet, cette militante de 73 ans. Son avocat avait demandé le dépaysement de cette affaire dans un autre tribunal que celui de Nice. Il l'a obtenu, le dossier sera jugé à Lyon, décision de la Cour de cassation. Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et halte au soda. Ils sont très mauvais pour notre foie. A tout de suite.
Europe 1. Bon, et sinon, vous partez où en vacances cet été ?
On a loué une maison dans le sud-ouest, à côté de Biarritz. On va y aller 2 ou 3 semaines.
Ah ouais ? C'est tout ?
Bah quoi, c'est tout ? Bah écoute, j'en suis ravi. Et toi, tu fais quoi ?
Bah nous, on a loué une maison dans le sud-ouest, à côté de Biarritz. On va y aller 2 ou 3 semaines. Mais en mini.
Ah bon ? Profitez encore plus de l'été. Rendez-vous dès maintenant dans votre mini-store et découvrez les offres estivales pour repartir en mini. Méné.
Tu veux la conduire ?
Offre valable jusqu'au 31 août sur des stocks limités disponibles en concession. Conditions sur mini.fr.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h08. C'est la suite de votre journal. Attention, boire un Coca, un Pepsi, un Fanta, un Sprite, un Orangina, ça peut paraître anodin, même si on sait que ces boissons sont trop sucrées. Mais bon, hein, de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Eh bien, détrompez-vous, boire une seule canette de soda par jour est très mauvais pour le foie. C'est l'Inserm qui le dit, c'est donc sérieux. Ces boissons sucrées et gazeuses ont pour effet de gorger le foie de graisse. On appelle ça d'ailleurs la maladie du foie gras. Très préoccupant pour le professeur Laurence Serfati. Il est hépatologue au CHU de Strasbourg.
Bon, là, c'est une étude chez l'adulte, mais chez l'enfant. Alors, il a été montré dans les études que sur les études de suivi très long chez des enfants qui passaient ensuite à l'âge adulte, en fait, tout se décide dans l'enfance. Hein. Si vous êtes déjà un peu obèse, un peu diabétique, il y a déjà un peu de foie gras dans l'enfance, eh bien, c'est sûr que vous êtes plus à risque de faire une maladie plus compliqué à l'âge adulte. Le message, c'est que même sans boire d'alcool, on peut avoir une cirrhose, sans le savoir, puisque les patients sont asymptomatiques, et cette cirrhose peut se compliquer, et ça peut être une indication parfois même à la greffe. Notre message, je vous dis, c'est de perdre du poids, suivre un régime, et bien sûr, stopper complètement la consommation de soda.
Le professeur Serfati au micro Europe 1 de Mélanie Gomez. Trier, réparer, consigner, le gouvernement décrète la guerre au plastique et mise sur le recyclage et les consignes pour remporter la bataille contre le gaspillage. Le projet de loi pour une économie circulaire a été présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Les Français sont champions d'Europe de la fécondité. 1,9 enfants par femme en 2017. L'Institut national démographique s'est notamment intéressé à l'impact de l'immigration sur cette fécondité qui est souvent mise en avant. Alors il existe certes, mais dans une moindre proportion. Caroline Baudry.
Parmi tous les bébés nés sur le sol français, près d'un sur cinq a une mère née à l'étranger. Mais d'après ces experts, finalement, l'immigration ne gonfle que très peu le taux de fécondité nationale, explique Gilles Pison de l'INED, co-auteur de l'étude.
Les immigrés mettent au monde 2,6 enfants en moyenne chacune, mais comme ce surcroît ne concerne qu'une minorité au sein de la population, il ne relève le taux de fécondité nationale que de 0,1 enfant.
2,6 enfants par femme, c'est une moyenne, car le taux varie selon les pays d'origine. Ce sont les femmes venues du Maghreb qui font le plus d'enfants, environ 3,5 chacune, suivies par les femmes issues du reste de l'Afrique, avec un peu moins de 3 enfants par immigré. Mais l'on retient surtout de cette étude que c'est la fécondité des Françaises natives, comme les appellent ces démographes, qui est déjà élevée. Elle est de 1,8 enfants par femme. Et ce record s'explique en partie par la politique familiale de la France, qui souvent mieux que dans d'autres pays européens, aide à concilier la vie privée et le travail des femmes.
Les précisions de Caroline Baudry. Aimer n'est pas tuer. Plus de 300 personnes se sont réunies ce soir devant l'église Saint-Sulpice à Paris pour une veillée de prière pour Vincent Lambert et pour dénoncer l'arrêt des soins de ce patient tétraplégique en état végétatif depuis presque 11 ans.
Isabelle Millet sur Europe 1.
L'Allemande Ursula von der Leyen, probable future présidente de la Commission européenne, se dit prête aujourd'hui à accorder davantage de temps au Royaume-Uni pour sa sortie de l'Union européenne, si Londres le demande, car un Brexit sans accord, dit-elle, serait catastrophique. Angela Merkel a de nouveau été prise de tremblement alors qu'elle recevait le Premier ministre finlandais. C'est la troisième fois en moins d'un mois, Sébastien Krebs.
Oui, c'est quasiment la même scène que les fois précédentes. Angela Merkel, qui accueillait à Berlin le Premier ministre finlandais, se tenait debout à ses côtés pendant les hymnes officiels et subitement, tout son corps s'est mis à trembler, ses jambes, ses bras, son buste pris de secousses sans qu'elle puisse ni les contenir, ni les dissimuler, même en se joignant les mains. Alors un peu plus tard, elle a dû s'expliquer devant la presse et a tenté de rassurer. « Je vais très bien, il ne faut pas s'inquiéter », elle explique qu'elle récupère difficilement, psychologiquement, de sa première crise de tremblement au mois de juin. « Je dois vivre avec ça pendant un moment », dit-elle. Son entourage parle de réactions psychologiques liées au souvenir de cette première crise. À l'époque, c'était en pleine canicule et la raison invoquée avait été la déshydratation. Cette fois, aucun risque, il ne faisait pas chaud du tout. La chancelière a repris normalement son programme, mais on peut s'interroger sur les conséquences politiques. Ce soir, troisième crise en moins d'un mois. Les spéculations sont relancées, les rumeurs risquent d'empirer. L'état de santé d'Angela Merkel est désormais un enjeu politique, écrit ce soir le quotidien allemand le plus vendu, Bild.
Sébastien Krebs, le courroux de Donald Trump aura eu raison de l'ambassadeur britannique aux États-Unis. Ce dernier démissionne après la fuite de mémos diplomatiques peu flatteurs à l'égard du président américain. Qualifié d'instable et d'incompétent, et l'administration américaine d'unique dans son dysfonctionnement. Et on prend tout de suite des nouvelles du Tour de France.
Europe 1. Le Tour de France avec De Koninck. Fenêtres, portes, volets, terrasses composites. Dekoninck.fr.
Avec une cinquième étape remportée aujourd'hui par le Slovaque Peter Sagan, le Français Julien Alaphilippe conserve le maillot jaune. Peter Sagan, qui est un habitué de la Grande Boucle, c'est sa 12e victoire d'étape, remportée donc ce soir au sprint à Colmar.
C'était pas un vrai sprint. On n'était plus qu'une cinquantaine de coureurs devant, 60 peut-être. Après les ascensions, beaucoup étaient fatigués. Donc je suis très content de la manière dont j'ai réussi à gérer cette dernière ligne droite.
Peter Sagan au micro Europe 1 de Marguerite Lefebvre. Demain, on attaque les choses sérieuses entre Mulhouse et la planche des belles filles. Les vacances approchent à grands pas pour certains d'entre vous. D'autres sont peut-être déjà sur la plage. Et à leur intention, les autorités lancent une opération de prévention sur le bassin méditerranéen. Le tourisme de plaisance nécessite en effet un minimum de précautions. L'an dernier, près de 30 personnes sont décédées en Méditerranée. Reportage à Toulon du correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel.
Yacht, voilier, baigneur, plongeur, paddle, planche à voile, l'été des milliers de personnes se partagent la mer. Ce week-end, avec sa famille, Didier a prévu de prendre le large.
Je pars en Corse vendredi, le bateau il est en sécurité. Les gilets, les fusées de secours, il y a tout ce qu'il faut sur le bateau.
S'équiper et se préparer en relevant la météo, des gestes indispensables en mer. Le capitaine de frégate Stanislas Jancien, porte-parole de la préfecture maritime de la Méditerranée.
On ne sort pas à l'improviste, on se prépare, donc on connaît la météo. Et surtout, on s'équipe. On porte son gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage, non seulement c'est celui qui vous permet de flotter, mais c'est celui qui permet aux autres qui vont venir vous chercher de vous voir. Et quand la mer sera formée, ils verront à peine votre tête si vous n'avez pas le gilet de sauvetage.
Stéphane est un plaisancier aguerri, membre de la Société nationale de sauvetage en mer dans le Var.
Il peut y avoir un certain nombre de comportements un peu compliqués. Ça se produit seulement entre le 14 juillet et le 15 août. On va dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui connaissent la mer depuis très longtemps, qui ont un comportement respectueux vis-à-vis d'elle. Et il y a d'autres personnes qui consomment la mer comme un produit montagne. C'est un produit vacances. Hein.
En cas d'accident, il faut composer sur son téléphone le 196 ou se brancher sur le canal 16 de sa VHF. Toulon, Frédéric Michel, Europe 1.
Et voilà qui nous amène à parler de la météo avec vous, bien sûr, Elena Morna, avec Elena du changement demain sur le nord-est.
Exactement Isabelle, voilà des nuages et quelques averses sur les régions qui bordent les frontières du Nord, un ciel voilé sur une grande partie nord en fait, jusqu'au Poitou-Charentes, Auvergne et Rhône-Alpes, et un ciel plus bleu au sud. Alors l'après-midi, les éclaircies prendront l'avantage sur les régions de l'ouest, on aura un ciel blanc sur l'est et encore quelques nuages et deux ou trois gouttes entre les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace. Les températures, c'est tout doux le matin et bien chaud l'après-midi et même trop chaud à Nîmes encore avec 35 degrés, 33 à Cahors et Perpignan, 30 à Bordeaux, 31 pour Toulouse et Marseille, 30 à Paris, Blois et Auxerre, 29 à Angers, Lyon et Grenoble, 28 à Évreux et Clermont-Ferrand, 27 pour Rouen et Pau, 26 à Lille et Nancy, 23 à Brest et Dunkerque, 21 seulement pour Cherbourg. Alors un mot sur votre vendredi, samedi, dimanche, les températures vont baisser mais resteront estivales. Des nuages vont circuler rapidement, hein, d'abord entre le Poitou-Charentes et les frontières luxembourgeoises vendredi, puis sur le nord-est samedi et dimanche avec parfois quelques averses, pas assez en tout cas pour résorber la sécheresse. À ce sujet, attention au vent, Mistral et Tramontane, vendredi et samedi dans le sud-est. Sécheresse et vent sont favorables aux incendies. La menace est sérieuse dans le secteur. Quant à la pluie qu'on attend presque désespérément puisqu'on en a besoin, elle arrive pour jeudi et vendredi prochain.
La météo signée Elena Morna.
Europe 1.